Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Bon, je sais que tout de suite en partant, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont peut-être un 2 ou 3 heures de sommeil qui manquent, là. Faites-vous-en pas, là. Vous allez pouvoir vous reprendre cet après-midi, là, avec un beau petit roupillon, un petit quelque chose, là, ceux qui ont peut-être pas d'enfants, parce qu'un roupillon en plein milieu de l'après-midi, c'est pas évident avec des enfants à moins de 10 ans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et je voudrais surtout ce matin profiter de l'occasion. Simplement de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017, toujours sous le signe de la merveilleuse grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je vous souhaite pour 2017, que la main généreuse de Dieu puisse vous émerveiller, puisse vous mettre dans un état de contemplation et d'adoration devant lui, que vous puissiez goûter un peu plus qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait de vous en tant qu'être racheté par la grâce à travers le pardon qu'il nous accorde à travers la personne de Jésus-Christ. C'est ce que je vous souhaite pour 2017. Et ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, on va quitter un peu la dernière thématique qu'on a terminée la semaine passée sur la nativité, la période de Noël. Bon, c'est fini Noël, là. Là, on rentre dans le temps des fêtes, mais plus du jour de l'an. Et ce matin, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est simplement comment qu'on pourrait ce matin partir l'année du bon pied. Vous avez déjà entendu cette expression-là, partir l'année du bon pied. Hein? Souvent, le jour de l'an, l'année qui arrive, c'est au Québec, là, on dirait parfois que dans le folklore québécois, il y a quelque chose qui se fait souvent au début d'année, c'est qu'on prend des résolutions. Hein? Cette année, je veux partir l'année du bon pied, je veux faire plus d'exercices, je veux manger mieux, je veux faire des heures de travail plus raisonnables, je veux prendre plus de temps avec mes enfants. J'aimerais travailler sur tel point dans ma vie. J'aimerais économiser un peu plus cette année, faire un peu moins de dépenses. Il y a toutes sortes de manières de partir l'année du bon pied, n'est-ce pas? Il y a autant de raisons. Vous pourriez ici venir ce matin puis m'expliquer, Miguel, pour moi, là, partir l'année du bon pied cette année, ça veut dire telle chose, puis vous auriez 10 000 raisons à me donner. Ce matin, j'aimerais qu'on mette l'accent sur quelque chose de très particulier. Souvent, quand on veut prendre une résolution pour partir l'année du bon pied, c'est que on veut mettre l'accent ou investir, mettre du temps pour ce qui compte vraiment. Pour des gens, ce qui compte vraiment, c'est la santé. Pour des gens, ce qui compte vraiment, c'est la famille. Pour d'autres, c'est leurs finances. Pour l'autre, c'est leur maison, c'est leur travail. Il y a plein de raisons, il y a plein de choses dans la vie qui sont intéressantes, qui sont importantes. Mais ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que on prenne vraiment la peine d'évaluer comment est-ce que je peux partir l'année du bon pied en vivant pour ce qui compte vraiment, en vivant pour ce qui en vaut la peine. Alors, ce matin, j'avais un lecteur de prévu, mais malheureusement, peut-être qu'il a fêté peut-être un peu trop fort hier soir. Alors, je vous invite tout de suite à tourner avec moi dans le texte qu'on va voir ce matin, dans l'Évangile de Luc. Et je vais vous inviter à tourner avec moi au chapitre 5 de l'Évangile de Luc. On va lire ce matin un passage que vous connaissez tous. Un passage que vous connaissez tous, donc je vais vous le lire dans la version second 21. Et évidemment, vous allez bien le reconnaître. On va regarder qu'est-ce qu'on peut... J'aimerais que dans la lecture, vous posiez la question, qu'est-ce que je peux comprendre de ce texte-là pour partir l'année du bon pied? De quoi me parle ce texte et comment je peux l'appliquer dans ma vie pour la prochaine année qui s'en vient, pour partir l'année du bon pied et continuer tout au long des mois qui vont venir et qui s'en viennent bientôt pour 2017. Donc, Luc, chapitre 5, à partir du verset 1 à 11, dans la version second 21. Je vous lis le texte. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Le texte qu'on vient de voir ici, probablement que vous l'avez lu plusieurs fois dans votre vie chrétienne, nous raconte le fameux épisode du miracle de la pêche miraculeuse. Est-ce qu'on peut dire que dans ce miracle-là qu'on voit, les gens ont parti du bon pied? On peut dire que oui. On peut dire qu'ici, les gens ont vécu une situation où ils ont parti quelque chose dans leur vie, où est-ce qu'ils ont tout laissé, nous dit le texte, pour suivre Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé, où est-ce qu'ils ont dit, ce gars-là, là, nous, on est prêts à tout faire pour le suivre. Ça vaut la peine. On croit qu'en investissant puis en le suivant du temps, puis en prenant du temps avec lui, on ne perdra pas au change. Ça vaut vraiment la peine de le suivre et de partir du bon pied avec lui. D'une certaine manière, ce qu'on voit ici, c'est que d'une situation de disette et d'échec, Simon puis les autres pêcheurs avaient pêché toute la nuit sans rien prendre, puis c'est eux qui nous le disent, c'est pas moi qui vous le dis, là, c'est le texte qui nous le dit. D'une situation de disette et d'échec, Jésus a produit une situation de réussite et d'abondance, au point qu'il y a deux barques qui ne suffisaient pas pour tout prendre le poisson qu'il avait pris. En fait, si on voulait résumer ici la situation et les 11 versets qu'on vient de lire, on pourrait dire ceci. C'est en se confiant dans la grandeur de Jésus que nous pouvons expérimenter l'étendue de son pouvoir et sa puissance afin de nous faire vivre pour ce qui compte vraiment. Je vous répète un peu la phrase principale sur laquelle tout l'exposé de ce matin va être basé. C'est en se confiant dans la grandeur de Jésus que nous pouvons expérimenter l'étendue de son pouvoir et sa puissance afin de nous faire vivre pour ce qui compte vraiment. En d'autres mots, on peut dire ici que dans cette histoire, la réalité a vraiment dépassé la fiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est un proverbe qui nous dit souvent dans la réalité, dans le fil de la vie, là, sur le plancher des vaches, il arrive des fois des choses que même dans les films, on trouve pas. C'est incroyable. Dans le quotidien de nos vies, il se passe toutes sortes de choses qui parfois nous déboussolent, nous bouleversent, qu'on a de la misère à comprendre. Même dans les films les plus fous, on n'arrive pas à imaginer des situations comme ça. Puis pourtant, ça arrive dans le réel de la vie. Bien, on voit ici que c'est ça qui est arrivé. La réalité a dépassé la fiction pour une raison, premièrement. C'est que c'est en se confiant dans la grandeur de la personne de Jésus que nous pouvons expérimenter l'étendue de son pouvoir et sa puissance. C'est ça qu'a expérimenté Simon ici. Simon, c'était quoi son métier? C'est un pêcheur. Pas un pêcheur dans le sens qui fait des mauvaises choses, un pêcheur dans le sens qui taquine le poisson. Il connaît le lac là, de Tibériade, le lac de Galilée, il connaît comme le fond de sa poche. C'est son métier de prendre du poisson dans ce lac-là. Il savait où prendre le poisson, c'est-à-dire là où l'eau est fraîche et peu profonde. Pour ceux qui sont pêcheurs ici, vous savez que à quelle heure qu'on se lève généralement pour faire une bonne pêche? On se lève aux petites heures du matin. Puis généralement, on va dans les eaux peu profondes parce que c'est là que se tient le poisson. En journée, l'eau, ben, à cause du soleil, ça se réchauffe et puis les poissons aiment la fraîcheur. Donc, ils vont aller un peu plus profondément. Donc, le jour, c'est plus difficile. C'est très tôt le matin, même pendant la nuit, qu'on prend le poisson. Pourtant, regardez ce que nous dit le verset 4. Le verset 4 et le verset 5. Quand il eut fini de parler, en parlant de Jésus, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, on voit ici que Jésus demande à Simon de faire exactement le contraire de ce qu'il fait d'habitude pour prendre du poisson. Il dit, oublie tout ce que ton expérience de pécheur te dit, là. Écoute ce que moi je te dis. On voit ici que Simon, il est devant un choix. À qui va-t-il se fier? À son expérience personnelle de métier de pêcheur? Ou bien il va se fier à un charpentier qui ne connaît pas le lac aussi bien que lui, mais qui l'a vu auparavant guérir sa belle-mère et qui l'a même vu chasser des esprits impurs? À qui est-ce qu'il va se fier? C'est comme un peu comme si Jésus, ici, jouait au petit Joe connaissant. Il dit, moi, je suis un charpentier, Simon, là, toi, tu es un pêcheur. Mais moi, je vais te montrer comment exercer ton métier, même si je n'exerce pas le même métier que toi. C'est facile de penser cette dynamique-là. Et d'une certaine manière, même si ça ne fait aucun sens pour lui, Simon, ici, prend une décision. Il prend la décision de se fier à la parole de Jésus et c'est alors que se produit l'inattendu. Une quantité phénoménale de poissons sont pris. En fait, il y en a tellement qui doivent demander de l'aide parce que le bateau risque de couler. Un vrai miracle vient de se produire. Et la question ici qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui a permis à Simon de surmonter le doute? Parce que Simon, il vient de dire à Jésus, « Écoute, Jésus, dit, je viens de pêcher toute la nuit puis je n'ai rien pris. » Si on se fie à la logique, là, ben c'est pas en pleine heure du jour que je vais faire une meilleure pêche. Surtout pas si je vais en eau profonde, comme tu viens de me le demander. Parce que la logique des choses, la nature des choses, fait que le poisson, il se tient pas là. Mais parce que toi, tu me le dis, je vais le faire. Qu'est-ce qui a permis à Simon de surmonter le doute? Puis si le doute, ça, pour bien des gens, c'est quelque chose de problématique. Il faut bien comprendre que le doute fait partie de notre nature humaine. C'est normal pour Simon d'avoir un doute ici sur « Est-ce que Jésus me demande vraiment quelque chose d'irrationnel et d'illogique? » Oui, il te demande quelque chose d'irrationnel et d'illogique. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais à qui tu vas te fier? À ton impression d'illogisme ou à la puissance de celui qui vient de parler? Eh bien, Simon nous dit « Moi, je vais me fier à ta parole. » Je ne vais pas me fier au fait que c'est rationnel ce que tu viens de me demander. Je vais me fier plutôt à la crédibilité de ta parole. Et ce qu'on voit ici, ce qui a produit le fait que Simon s'est fié à Jésus plutôt qu'à lui-même, c'est en raison de l'identité de celui qui lui demandait cette chose. Au verset 5, Simon appelle Jésus maître. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, il y a deux mots. Parfois, on vous utilise le terme « rabbi ». Vous vous souvenez, hein? « Rabbi » puis « maître », ça, c'est un terme de politesse. Ici, ce n'est pas le mot « rabbi » qui est utilisé. C'est un autre mot qui, dans le grec, veut dire « celui qui est le chef », celui qui décide et qui a autorité sur tout. Et ce mot-là, dans le grec, il revient à 6 reprises dans le Nouveau Testament, puis les 6, c'est dans l'Évangile de Luc, dont la première, c'est ici, dans l'épisode « La pêche miraculeuse ». Jésus est un maître. Et ça, Simon, ici, il lui dit clairement, « Maître, je reconnais que tu as autorité sur tout. » Donc, Simon n'a pas exercé ici sa foi comme une peccadille. Il n'a pas exercé envers n'importe qui. Il n'a pas eu sa foi dans n'importe quoi. Il a eu foi dans la parole de quelqu'un qui avait une autorité absolue. Il a mis sa confiance dans la parole de Jésus parce qu'il a considérer son autorité comme la plus grande qui puisse exister. Conséquemment, il ne pouvait donc que s'y soumettre. Si quelqu'un vous dit, écoute, va dans la rue et commence à danser. Ben, si c'est Laura, ma femme, qui me le dit, je ne le ferai pas, comprends-tu? Parce que sa crédibilité là-dessus, ben, je ne la crois pas trop. Mais si un policier vient me dire, dit, écoute, Miguel, moi, je vais sécuriser la rue, là, puis je vais interdire aux autos de passer, je vais m'arranger pour que tel champ libre, puis vas-y danser dans la rue. Mais il y a plus de chances que j'y aille. Pourquoi? Il y a moins de risques. Il y a une plus grande autorité que ma femme pour assurer ma sécurité au niveau de cette rue-là. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Donc, oui, c'est un exemple un peu sorti de nulle part, mais c'est pas grave. Simplement vous souligner que le fait d'une autorité nous donne une meilleure raison de croire dans celui qui nous dit les choses. Le célèbre astronome italien Galilée, vous connaissez Galilée? C'est un des grands astronomes du 16e siècle qui a notamment, qu'il a découvert que le Soleil est au centre de la Voie lactée, que la Terre tourne autour du Soleil. Ça, c'est Copernic qui l'a décrit, mais lui, il a comme confirmé les écrits de Copernic. Galilée disait ceci, « L'autorité d'un seul homme compétent qui donne de bonnes raisons et des preuves certaines vaut mieux que le consentement unanime de ceux qui ne comprennent rien. » Ce qu'on veut dire ici, c'est que la voix ou la pensée de la majorité du commun des mortels n'équivaut pas au poids de celui qui démontre qu'il a autorité sur tout. D'une certaine manière, ici, là, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de l'autorité, là, ben, la démocratie, elle n'a pas toujours raison. Dieu parle parfois par la démocratie, par la voix du peuple, mais des fois, le peuple aussi peut se tromper. Et si Dieu dit quelque chose puis que le peuple dit d'autres choses, c'est pas parce que le peuple est plus nombreux que l'être unique qu'est Dieu, qui ont plus raison que l'être unique. Comprenez-vous ce que je veux dire ici? L'autorité, la qualité de l'autorité de Jésus ne dépend pas du fait que c'est reconnu par une multiplicité de gens, mais c'est reconnu simplement par le fait que c'est moi qui ai autorité et qui décide de tout. Pour Simon, se confier dans la parole de Jésus, ce n'était pas juste un geste raisonnable. C'était un geste qui s'imposait de lui-même. Je n'ai pas le choix de faire ce qu'il me demande, parce qu'au bout du compte, c'est lui qui a raison. C'est lui qui décide de tout, même si ça me paraît irrationnel et illogique. Et d'une certaine manière, c'est sa vision de la grandeur de Jésus au niveau de son autorité qui a permis à Simon de combattre le doute. Même si dans sa tête, il y avait toutes sortes de scénarios sur l'illogisme de la situation, pour lui, il a vu l'autorité de Jésus comme étant tellement grande qu'il a décidé de combattre le doute par la grandeur de l'autorité de la personne de Jésus, de sa puissance. Et c'est comme ça qu'il a pu expérimenter et être béni. Parce que si Simon, il décide d'être logique, ben je suis désolé, il n'y en a pas de miracle. Est-ce qu'il est béni? Est-ce qu'il expérimente la puissance de Dieu? Ben non, il n'expérimente pas, il ne se passe rien, il ne jette pas les filets. Il ne fait pas ce que Jésus lui demande. C'est dans la foi, ici, qu'il a été vraiment un être qui a été béni, qu'il a pu expérimenter la puissance de Dieu et en être un témoin. Je vous donne un exemple très pratique. Il y a de cela quelques années, un couple de mes amis était aux prises avec une situation qui les décourageait énormément. Ils essayaient d'avoir un enfant, ça ne fonctionnait pas, pour différentes raisons. Et puis même au niveau de l'adoption, c'était extrêmement compliqué. Beaucoup de tracasseries, beaucoup de problèmes, c'était vraiment compliqué. À un moment donné, pendant cette période-là, Dieu a déposé quelque chose sur leur cœur. Quelque chose qui leur permettrait de le servir davantage. Mais pour ça, il fallait qu'ils changent de région, changent d'emploi, changent de maison, changent d'église. Ils s'éloignent même de leur famille. Pour eux, c'était vraiment un pas de foi. Dieu, il avait vraiment déposé quelque chose sur leur cœur, mais il y avait un prix à payer. Même si rien ne leur était garanti, c'est comme si Dieu les appelait à quelque chose, mais ils devaient renoncer à beaucoup de choses pour suivre l'appel que Jésus vraiment mettait sur leur cœur. Donc, logiquement, beaucoup de gens leur disaient, écoute, ça n'a aucun bon sens de quitter ta région, de quitter ta maison, de quitter ton emploi bien payé pour un autre où rien n'est garanti. Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Et pourtant, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont dit, OK, non, Dieu t'a vraiment déposé ça sur notre cœur. OK, on y va, go. Vous savez ce qui est arrivé? En changeant de région, ils ont changé de région administrative. Et des procédures d'adoption se sont vraiment simplifié à l'extrême. Et aujourd'hui, ils ont deux enfants avec eux. Pourquoi? Comment ils ont réussi à être bénis? Comment ils ont pu expérimenter la puissance de Dieu par un geste de foi? Il a fallu qu'ils changent de région, mais quand ils ont changé de région, c'est le fait qu'ils ont obéi à ce que Dieu avait simplement déposé sur leur cœur. C'est par un geste de foi qu'ils ont expérimenté, qu'ils ont goûté à quel point Dieu est un être puissant. Mais avant d'expérimenter ça, ils ont décidé de prendre Dieu au mot. Tu as voulu nous envoyer dans telle région, parfait, on y va, même si tu ne nous garantis rien. C'est là qu'ils ont goûté l'étendue de la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il en est de nous personnellement? Quand que je me trouve devant un dilemme, quand que je me trouve devant quelque chose que Dieu me montre clairement, mais que ma pensée oscille, que je suis en proie au doute, que je me pose des questions, est-ce que Dieu me dit vraiment ça? Parce que ça, il me semble que c'est pas logique. Est-ce, vers qui ma confiance se tourne-t-elle vraiment? Est-ce que je suis le genre de personne qui a plutôt tendance à se trouver des excuses, des prétextes ou des raisons pour douter, pour pas faire ce que Dieu me demande de faire, mais qui peut me paraître irraisonnable, illogique? Pourquoi? Parce que j'ai peur de certaines choses. J'ai peur de prendre un risque. J'ai des appréhensions qui sont parfois tout à fait normales. Mais c'est faisant un geste illogique et irrationnel que Simon a été témoin de la grandeur de Jésus, qui a pu expérimenter sa puissance. Là, je veux que vous compreniez bien, être illogique et rationnel fait partie aussi du plan de Dieu. Mais parfois dans la vie, il existe aussi des situations où Dieu veut mettre notre test, veut mettre notre foi à l'épreuve. Est-ce que tu te fies juste à moi parce que ce que je te demande, c'est logique et rationnel? Et si je te demandais quelque chose qui est illogique et rationnel, vers qui tu vas te tourner? Vers ce que toi, tu considères comme logique ou irrationnel? Ou tu vas m'inclure dans l'équation de la décision dans laquelle tu es pris? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Prendre le risque d'être logique et irrationnel dans certaines situations pour laisser Dieu te bénir, laisser Dieu créer l'abondance dans ta vie et que tu puisses devenir le témoin de sa grandeur et de sa puissance. Quand que Simon a cru dans la parole de Jésus, qui a été en eau profonde, qui a jeté ses filets, il a été béni de manière incroyable. Il a expérimenté quelque chose de miraculeux à propos de Jésus. Et une des choses qu'on voit dans le texte, et c'est là le deuxième point ce matin, c'est que l'ampleur de l'autorité de Jésus ne peut que nous bouleverser. Souvent, lorsque l'être humain est mis devant une situation qui le dépasse ou qui l'émerveille, cela le trouble. C'est ce qui est arrivé à Simon et à ses comparses. Regardez ce qui est arrivé au verset 8. Au verset 8 du même texte de Luc 5. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. On voit ici que, clairement, tout le monde est bouleversé par ce qui est arrivé, parce que Jésus vient d'accomplir. Et au lieu d'appeler Jésus maître, Simon ici, il l'appelle comment? Il l'appelle plus maître, il l'appelle Seigneur. C'est-à-dire que ce qu'il vient de voir, c'est tellement grand, c'est tellement extraordinaire que ça ne peut provenir que de Dieu lui-même et rien d'autre. Tu n'es pas juste le maître qui contrôle tout, tu es Dieu fait homme. Voilà en quoi réside ton autorité. Et voilà pourquoi je t'obéis. Voilà ce qui me bouleverse. Ça me terrasse de voir que je suis devant quelqu'un qui incarne la personne de Dieu. Et c'est là que Simon confesse que ce qu'il mérite, c'est que Jésus s'éloigne de lui, qu'il se sépare de lui tellement tout cela le bouleverse. Il avoue qu'il est profondément indigne de se sentir et d'être à côté de Jésus. Il est un être pécheur. L'écrivain et le philosophe belge Raoul Vanheghem, que je ne connaissais pas, a déjà dit ceci qui est assez, je pense qu'il met vraiment le doigt sur quelque chose d'intéressant. Il dit « Le secret d'une autorité, et on parle ici de l'autorité de Jésus, le secret d'une autorité, quelle qu'elle soit, tient à la rigueur inflexible avec laquelle elle persuade les gens qu'ils sont coupables. Le secret d'une autorité, quelle qu'elle soit, tient à la rigueur inflexible avec laquelle elle persuade les gens qu'ils sont coupables. En d'autres mots, on pourrait dire que la grandeur d'une autorité tient dans sa capacité à ce que les gens ne peuvent que humblement s'y soumettre et se sentir petits face à elle. Et c'est exactement ce que Simon vient de dire ici. Ta grandeur, ton autorité, Jésus, est tellement grande que je ne peux que me agenouiller devant toi et t'avouer mon sentiment de finitude comparativement à ton état d'infinitude. Dans le sens que toi, tu n'as pas de limite. Moi, j'en ai. Je suis vulnérable devant toi. Je suis petit devant toi. Et au lieu de nier, au lieu d'haïr ou de discréditer ton autorité, eh bien, je vais simplement confesser que devant ton autorité, je suis impuissant et je suis petit. Je ne peux rien faire. Donc, éloigne-toi de moi, parce que t'es trop grand. Ce que tu viens de me démontrer, ça me bouleverse, ça me terrasse. C'est quand la dernière fois où Dieu vous a littéralement estomaqué? C'est quand la dernière fois qu'il nous a remis littéralement à notre place, c'est-à-dire pas grand-chose? Est-ce que vous craignez Dieu? Parce que je suis désolé, ici, Simon, il craint Dieu. Souvent, dans nos cercles d'amis, dans nos églises, souvent, on voit Jésus comme un ami. Mais d'une certaine manière, c'est vrai. Jésus, il marche à côté de moi, puis il développe un lien d'amitié avec moi, mais il est tellement plus que ça. Il y a une bonne crainte respectueuse à avoir face à la sainteté de Dieu. Et on a vraiment beaucoup de bénédictions lorsqu'on cultive ce saint respect de la personne de Dieu qui nous bouleverse devant lui. Pour bien des gens, la puissance de Dieu ou son autorité sont des choses qui doivent être déployées sur eux. Regardez autour de vous, là, quand quelqu'un est malade, il va à l'urgence et là, il se dit, là, les médecins n'ont pas un bon diagnostic pour lui. Puis là, il se dit, ben écoute, Dieu, là, qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose? Tu dois me bénir, tu dois me guérir. C'est comme si, dans le commun des mortels, souvent en tant qu'être humain, là, on a l'impression que Dieu nous doit quelque chose. Il doit nous bénir. Il doit faire quelque chose pour intervenir dans notre vie, parce qu'on le mérite bien après tout. Vraiment. On mérite vraiment que Dieu nous fasse du bien. On mérite vraiment que Dieu nous bénisse. On mérite vraiment que Dieu déploie sa grandeur et sa puissance sur nous. Parce que vous savez, si Dieu accorde sa bonté, sa puissance et son autorité sur nous en fonction de nos performances, en fonction de nos mérites, ben alors la puissance de Dieu ne vaut pas grand-chose. Parce que mes mérites, ils ne vaut pas grand-chose non plus. Dieu est tellement plus grand que les mérites que je peux mettre devant lui. Et ce qu'il veut me révéler, c'est que ma grandeur veut vraiment s'infiltrer dans ta vie. Elle veut t'illuminer par la grâce, par la grandeur de qui je suis. Et jamais tu seras assis sur la coche pour mériter que je te bénisse, que je te mette dans une situation de prospérité et d'abondance. Je parle ici au niveau spirituel, bien sûr. Ce n'est pas tes performances qui vont te mener là. C'est simplement qui je suis en tant que Dieu de l'univers. Je suis un Dieu de grâce qui veut accomplir ma puissance, ma délivrance sur toi parce que je suis Dieu. J'ai autorité sur tout. Un point, c'est tout. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'autorité de Dieu, c'est qu'il ne se contente pas d'une autorité qui fait juste nous écraser et nous culpabiliser. Parfois, ça peut arriver. Et dans des bonnes situations. Parfois, dans des mauvaises, mais aussi dans des bonnes situations, l'autorité de Dieu nous culpabilise, surtout quand on vit dans des situations qui ne nous mettent pas en honneur. Mais pourtant, Dieu, à travers son autorité, il a décidé d'aller beaucoup plus loin que ça. Il a décidé d'aller plus loin. Et ce qui est clair dans le récit, c'est que l'autorité de Jésus nous relève pour nous faire vivre pour ce qui compte vraiment. Donc, premièrement, Dieu nous bouleverse par son autorité. Il nous fait voir à quel point on est petit. Et deuxièmement, il nous relève. Il nous fait voir petit et ensuite, il nous relève pour nous faire vivre pour ce qui compte vraiment. Lorsque Jésus a vu Simon-Pierre dans un état de détresse qui le terrassait, il aurait certainement pu le laisser là. Il aurait pu le laisser là avec son petit bonheur, avec son petit malheur. Il aurait pu le laisser dans son propre état de misère. Bon, regarde-le, moi, là, je viens de te bénir, je te donner une abondance de poissons. Arrange-toi avec ça, bonhomme. Je vois que tu es malheureux, tout ça, tu es un être pécheur. Oui, c'est vrai que tu es pécheur. Moi, je suis beaucoup plus grand que toi. Mais je veux tellement aller plus loin que ça avec toi. Le but de la grandeur de Jésus, c'est pas de nous écraser. Regardez ce que nous dit la fin du texte, au verset 10. Toujours au chapitre 5 de Luc. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. On voit ici clairement que Jésus vient au secours de Simon. Il prend la peine de le relever par un geste de grâce et lui dit, « N'aie pas peur de ce que tu viens de voir à propos de moi. N'aie pas peur de la grandeur de la personne avec qui tu viens d'entrer en contact, mais plutôt, fais-lui confiance. » Tu vois à quel point je suis grand, bien au lieu de te laisser écraser par cette grandeur-là, confie-toi dans ce que je te dis. Même si ce n'est pas logique, même si ce n'est pas rationnel, afin d'investir ta vie pour ce qui compte vraiment. Et c'est à partir de ce moment-là que les pêcheurs laissent tout de côté et qu'ils prennent la décision radicale de suivre Jésus coûte que coûte. Pourquoi? Et pas parce qu'il est le maître. Parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il a une autorité qu'ils viennent d'expérimenter ici de manière très personnelle. Ils se rendent compte que ce qui compte vraiment, c'est pas les poissons qu'ils viennent de prendre pour pouvoir ensuite les vendre et s'enrichir. C'est pas ça qui compte. Non, ce qui compte vraiment, c'est que la puissance et l'autorité de Jésus veut faire d'eux. Et c'est quoi qui veut faire d'eux? Des pêcheurs d'hommes. Dorénavant, ce que vous allez prendre, les prises que vous allez prendre, c'est plus des poissons. Vous n'allez plus prendre des poissons qui sont vivants pour ensuite les rendre morts et ensuite les manger. Mais vous allez prendre des âmes qui sont mortes spirituellement pour que je puisse les rendre vivantes. C'est le contraire. Au lieu d'un état de vivant à un mort, avec les âmes, vous allez les prendre pour les rendre de mortes à vivantes. Pourquoi? Par le message de la croix. C'est moi qui vais les rendre vivantes. Vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. Vous allez faire connaître qui je suis. Vous allez parler de moi. Vous allez parler de ce que je vais faire à la croix. Et qu'est-ce qui est arrivé à la croix? Eh bien, Dieu est parti à la pêche. À la croix, Dieu est parti à la pêche. Il a jeté son filet de grâce vers toute l'humanité. Il a jeté son filet de grâce vers nous. Par la foi et notre confiance en la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, Dieu a mis fin à ce qui nous sépare de lui, à ce qui nous rend morts devant lui, notre péché. Là où son Fils est mort sur la croix, Jésus nous a donné la vie. Il nous a donné la vie de Dieu parce qu'il est lui-même Dieu et qu'il a l'autorité pour faire cela. Et il a même l'autorité de faire de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Tournez avec moi dans Matthieu, simplement pour voir ce qu'il y en est. Tournez avec moi dans Matthieu au chapitre 28. Passage classique. Au verset 18. Matthieu, chapitre 28, verset 18, nous dit ceci. Jésus s'approcha. Évidemment, il est devant ses disciples et il leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Est-ce qu'on peut parler d'une autorité qui est plus grande? Non. Et ce pouvoir-là a été donné à Jésus. « Allez, donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On voit ici très clairement que non seulement Jésus nous fait bénéficier de son autorité, mais qu'il nous associe à son autorité. Il nous associe à son travail. Il veut qu'on fasse par lui, par son autorité, par son esprit, des quoi? Des disciples. Voilà ce qui compte vraiment. Voilà comment je peux partir l'année du bon pied. en misant sur le fait que dans ma vie, il y a plein de choses importantes, mais celle qui est la summum, celle qui est la numéro un, c'est que par l'autorité que Jésus me donne, par l'esprit dont il a déposé sur moi, par le message de compassion, de pardon et de grâce par lequel il m'a racheté et délivré de la mort, je puisse participer dans mon quartier, dans mon église, à contribuer au fait que des disciples sont formés. Des disciples grandissent. Voilà à quoi sert l'autorité de Jésus. Faire des disciples. Et non seulement nous en bénéficions, mais il nous associe à son autorité. Il nous associe à son travail. L'autorité que Jésus possède ici est finale. Non seulement cette autorité est digne d'être écoutée, entendue et qu'on s'y soumette, mais on voit ici que cette autorité, Jésus nous demande également d'en vivre. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus nous associe à son autorité pour pouvoir faire des disciples. Vous savez, c'est très facile d'essayer de faire des disciples par nos propres forces. C'est un piège, parce qu'à ce moment-là, on ne se sert pas de l'autorité de Jésus-Christ pour faire des disciples. Ça se vit par le travail de l'Esprit, ça se vit par la prière, ça se vit par le travail d'équipe dans l'Église. Dieu veut qu'on fasse des disciples. Est-ce que vous voulez, pour 2017, vous dire, « Miguel, je veux partir l'année du bon pied et je veux me servir de l'autorité par laquelle Dieu me bénit, mais qui veut que je bénisse les autres pour participer au travail que tu es en train d'accomplir à Longueuil dans le fait de faire des disciples. » Est-ce que l'autorité de Jésus vous bouleverse? Est-ce que ce qu'il fait dans votre vie, des fois, ça vous étonne, ça vous terrasse? Vous êtes craintif parfois devant lui, devant ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il y a des endroits dans votre vie où Dieu veut vous prendre par surprise? Il veut vous prendre au dépourvu. Arrête d'essayer de tout setter dans ta tête, Miguel, là, et puis fais-moi confiance. Laisse-moi un peu d'espace dans toute la structure que tu es en train d'établir pour accomplir mon royaume. Ce n'est pas le tien que tu es en train de travailler, là, c'est le mien. Tu es en train de travailler pour moi. C'est moi le patron. Laisse-moi un peu de place là, dans toutes tes pensées, dans tout ce que tu es en train de planifier, puis laisse-moi simplement agir pour qui je suis, celui qui a autorité sur tout. Est-ce que l'autorité de Jésus, pour vous, parfois, ça peut être simplement un bibelot qui traîne sur une tablette de votre vie, puis que la poussière s'accumule dessus? Des fois, vous passez un petit coup de balai, la poussière s'en va, mais après 2 semaines, ben, elle revient. Je ne veux pas que l'autorité de Jésus soit simplement un bibelot sur une tablette dans ma vie. Je veux que l'autorité de Jésus, ce soit comme un râteau rouillé dans le sens que je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé au soleil, sous la pluie, dans diverses saisons. Je l'utilise tout le temps. Il peut juste être usé. Pourquoi? Parce que je participe à un royaume auquel Dieu m'a déjà intégré par son esprit. Pensez à ça cette semaine, en ce début de nouvelle année. Sur quoi vous voulez miser cette nouvelle année pour partir du bon pied, puis miser, investir votre vie pour ce qui compte vraiment? Est-ce que vous avez des choix à faire? Des décisions qui sont peut-être difficiles à prendre? Peut-être des décisions illogiques? Partagez-le à quelqu'un. Soyez redevable à quelqu'un. Mettez ça en prière. Seigneur, écoute, je le doute, je dois affronter le doute. Il me semble que ce n'est pas logique de faire telle chose, mais je sens dans mon cœur que tu m'appelles à faire ça. Qu'est-ce que je fais? Oui, je sais que je dois obéir, mais écoute, je lutte en dedans de moi, puis c'est tout à fait naturel. Puis Dieu va continuer à vous bénir, même si vous doutez encore. Mais imaginez à quel point il va vous bénir si vous décidez de l'écouter. Encore beaucoup plus. C'est vrai que si on se fie à la parole de Jésus constamment, on peut prendre des risques. On peut prendre des risques d'être haï par ceux qui nous entourent. On peut se faire dire, comme je me suis fait dire il y a 2 semaines, « Miguel, toi, tu n'es pas un chrétien, tu es un crétin parce que tu crois dans n'importe quoi. » Oui, on prend des risques. Oui, c'est vrai. Mais le plus grand risque qu'on prend, c'est de voir la grandeur se manifester en nous et autour de nous, par le fait qu'il y a des disciples qui grandissent, qu'il y a des disciples qui font plus confiance à la souveraineté de Dieu dans leur vie, qui apprennent à vivre l'Évangile dans toutes sortes de situations. J'aimerais cette année qu'on prenne ce défi-là. Simplement nous poser la question, « Seigneur, je veux bien me servir de ton autorité, non seulement pour que ma vie puisse en bénéficier, ce qui est déjà beaucoup, mais également les gens autour de moi. Comment je peux me servir de ton autorité par ton Saint-Esprit pour devenir un pêcheur d'hommes, comme tu as voulu faire avec Simon et que tu veux faire avec ton Église? » On va se courber dans un moment de prière. Seigneur éternel, c'est une grâce ce matin qu'on a d'être avec toi. C'est une grâce, Seigneur, qu'on a d'être pour toi une famille, d'être pour toi des enfants, d'être pour toi un peuple que tu as souverainement racheté de la mort en nous délivrant du péché. Merci, Seigneur Jésus, pour l'autorité que tu as manifestée à la croix. Ce matin, ma prière pour notre assemblée, pour notre Église, c'est que dans chacune de nos vies, nous puissions savourer en 2017 à quel point tu es non seulement un Dieu merveilleux, généreux, extraordinaire, mais un Dieu qui, au bout du compte, a toujours raison. Même lorsque c'est illogique et irrationnel, Seigneur, c'est toi qui décides de tout. Tu as souveraineté sur tout. Et on veut que notre vie soit centrée sur ce grand attribut que tu possèdes pour grandir dans notre manière d'être un disciple de Jésus et de faire d'autres disciples de Jésus par ta grâce infinie. Montre-nous le chemin, Seigneur. Dépose ce fardeau dans nos cœurs. Nous te le demandons. Nous venons devant toi pour mettre ce royaume que tu es en train de construire entre tes mains et que tu puisses continuer à nous utiliser souverainement dans nos vies en mettant toujours en premier plan que c'est ton royaume à toi que tu construis par ton autorité qui a été manifestée à la croix. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que c'est en te faisant confiance vraiment qu'on peut savourer et expérimenter la grandeur et l'étendue de ta puissance et ton pouvoir dans nos vies et celles des autres autour de nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, et béni soit l'année que nous venons d'entamer. Amen.